Assis encore réunis ensemble autour du Seigneur, sous le regard du Père et dans la seule dépendance du Saint-Esprit, demandons à Dieu que ces instants soient tout pénétrés de cette présence dont parlait l'apôtre Paul quand il disait « Mon esprit est présent au milieu de vous avec la puissance de Dieu. » Ô Dieu, c'est vrai que nous sommes déjà en communion avec des esprits des justes, des incarnés, qui attendent cette heure de la résurrection dans le repos, mais dans la contemplation de ta face. Et nous nous sentons comme environnés de cette nuée de témoins. Ils ne sont pas loin de nous, ils nous entourent. Nous savons qu'en cet instant, le ciel nous contemple. Les anges sont là, qui nous regardent. Ces anges qui se réjouissent, qui tressaillent d'allégresse, quand un pécheur sur la terre vient à la repentance, tel l'enfant prodigue, qui a donné de la joie au ciel. Nous voulons te demander que les uns et les autres, dans la condition qui nous est particulière, que nous soyons hommes ou femmes, jeunes ou plus âgés, nous puissions te donner de la joie. Ô Père du ciel, notre Père, et que le Seigneur Jésus puisse déjà jouir quelque peu du fruit du travail de son âme en ces hommes, en ces femmes qui ont arrêté dans leur cœur de suivre Jésus, quel que soit le prix. Nous savons qu'il y a une récompense dans ce chemin-là et nous voulons être de ceux qui espèrent une couronne non pas pour la mettre sur notre tête, mais pour pouvoir la jeter à tes pieds. Pour n'arriver pas les mains vides, mais pour pouvoir te rendre ce que tu nous auras donné, dans la joie et dans l'amour. Oh, nous nous réjouissons de cette rencontre, peut-être si proche, la maison du Père. Nous allons bientôt la connaître. Et connaître tous ceux qui y habitent, et être consommés dans l'unité et dans la charité. Que nous n'attendions pas ce moment pour déjà nous manifester cet amour sur la terre. Jésus étant toujours de moitié entre nous. C'est notre prière ce matin, afin que tu nous conduises, que tu nous donnes d'insister sur les mots que nous devons insister, de passer sur ce qui est moins important, que tu diriges vraiment, que tu présides, et que nous soyons à ton école. Ensemble, tu es notre seul maître, notre seul Seigneur. Amen. J'étais tout à l'heure, là, dans ma petite promenade pour prendre quelques bonnes respirations et je me disais quand même, c'est merveilleux de penser que l'apôtre Paul a été conduit à mettre le chapitre 13 après le chapitre 11 et le 12 hein, pour permettre que nous revenions vraiment à ce qui est essentiel après peut-être avoir été un peu bousculé par ce que nous avons lu et qui est quand même un enseignement du Seigneur que nous a transmis l'apôtre Paul. Et avant le chapitre 14, pour que nous puissions vraiment pénétrer en restant dans l'amour. Il paraît, et c'est une bonne nouvelle, quelqu'un est venu me le dire tout de suite, que cette fois, dans leur groupe en tout cas, ils avaient réussi à répondre à toutes les questions, sans trop de difficultés, tandis que hier, encore samedi soir, il y a eu une ou deux questions. questions qui ne sont pas tout à fait résolues. Mais je ne vais pas commencer là-dessus parce que c'est trop. Aujourd'hui, ce matin, on va peut-être en parler plus tard si on a encore le temps. Vous donner quelques indications au sujet de ces questions. Mais peut-être que, en terminant mon travail, j'étais plus simple qu'au commencement. Mais je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la 12e à trouver facilement. Nous sommes donc au dimanche matin 1er novembre et nous commençons par cette exhortation de l'apôtre Paul qui nous dit d'être ses imitateurs. Est-ce que c'est un orgueilleux pour pouvoir dire cela? Oh non, mes amis. Il a passé, et vous l'avez vu, par toute espèce d'épreuve, mais il peut dire, vraiment parce qu'il vit dans la présence de Dieu, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. » Alors, ne vous arrêtez pas à moi, mais allez encore plus loin, allez directement au Christ. Mais vous avez un exemple qu'un homme peut imiter le Seigneur. Et nous ne nous tromperons jamais quand nous imitons l'apôtre Paul parce qu'il a vraiment tout laissé, tous les avantages qu'il avait selon la chair, qui étaient des bonnes choses en soi, il les a laissés parce qu'il n'avait plus qu'une idée, glorifier le Christ. En le connaissant d'une façon de plus en plus intime pour avoir part à la puissance de sa résurrection afin de pouvoir entrer dans la communion de ses souffrances. Parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Je passe plus loin et vous aurez remarqué comme Paul souligne toujours qui a de bien. Il essaye toujours d'être positif. Il a un esprit positif, une pensée positive. Il voit d'abord ce qu'il y a de bien chez quelqu'un. Tandis que nous autres, on voit tout de suite la petite bête. On voit tout de suite ce qui cloche. Eh bien, apprenez à voir comme le Seigneur voit. Et quand vous lisez les lettres aux sept églises de l'Apocalypse, alors que le Seigneur de gloire a des reproches à faire à toutes ces églises, il commence toujours par rappeler ce qu'il voit de bien. Puis ensuite, il dit, mais j'ai contre toi. Mais il souligne d'abord ce qui est positif. Et là, on voit l'apôtre fait de même. Il a déjà dû remettre bien des choses en ordre dans cette église de Corinthe, mais il continue à se souvenir qu'il y a quand même des choses qui sont justes. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. C'est comme s'il oubliait toutes les critiques qu'on faisait à son sujet. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Pourtant, il y avait des écarts, hein. Mais il veut souligner qu'il y a quand même des choses sur lesquelles vous êtes restés fidèles. Alors, voilà ce que je voudrais souligner. Vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Tout n'était pas corrompu. Il n'y avait pas que des déviations. Mais alors, une fois qu'il leur a dit cela, hein, il dit, mais cependant, il y a quand même quelque chose que je dois relever, parce que c'est ça, la vraie correction. Il ne faut pas décourager nos enfants en leur montrant tout de suite ce qui ne va pas. Il faut d'abord souligner aussi, quand on éduque nos enfants, les choses qui nous font plaisir. Alors ça les encourage et ça leur permet de recevoir une admonition. Je veux cependant que vous sachiez, alors, il va tout de suite les mettre en présence du Christ. C'est le Seigneur de gloire. Voyez-vous, ce qui compte, c'est toujours mettre les gens en présence du Christ. non pas leur faire sentir que nous, nous savons quelque chose, mais est-ce que tu as pensé au Christ? Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Est-ce qu'il y a des contestations parmi nos frères? Vous admettez que le Christ est le chef de tout homme? Amen. Bon. Alors. Et que l'homme est le chef de la femme. Non, chère sœur. Écoutez, c'est très simple. Ne vous mariez pas. Restez célibataire. Vous n'aurez pas un chef. Vous aurez quand même le Christ. Parce que le Christ est le chef des femmes célibataires. Il devrait, en tout cas des célibataires chrétiennes. Et loué soit le Seigneur, j'en connais. Des femmes célibataires qui ne se sont pas desséchées. Et qui reflètent que c'est le Christ qui est leur chef. Et c'est vrai de vrai. Alors, croyez-le bien. Mais si vous ne voulez pas déjà, vous, accepter que, selon Dieu, le chef de la femme, c'est l'homme, ben ne vous mariez pas. Et ne discutez pas. Le chef de tout homme, c'est le Christ. Et l'homme est le chef de la femme. C'est pas moi qui le dis. Puis attention, c'est pas Paul qui le dit non plus. Parce qu'il se réfère à l'institution du mariage. Et alors, que Dieu est le chef de Christ. Est-ce qu'il est d'accord? Vous rendez-vous compte que le Christ, lui, il a accepté un chef, alors qu'il était Dieu lui-même, quant à sa nature. Lui, il a accepté d'avoir un chef. À qui est-ce qu'il a donné gloire, le Christ? À son Père. Il n'a parlé que de son Père. Il a tout attribué à son Père. Il a dit, ma doctrine n'est pas de moi, elle est de mon Père. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai entendu de mon Père. Les œuvres que je fais, ce sont les œuvres que j'ai vu faire par mon Père. Et nous, nous ergoterions, nous ne serions pas d'accord quand on pense que le Christ, en tant qu'homme, il était de condition divine, mais vous avez lu cela dans Philippiens chapitre 2, étant de condition divine, lui qui n'a pas cherché à être égal à Dieu, il était égal à Dieu, il s'est anéanti lui-même, il a pris un corps formé dans le sein de la Vierge Marie, il est apparu ici-bas comme un homme, et comme homme, il est devenu obéissant. C'était une chose nouvelle pour le Fils d'obéir dans ce sens-là, parce qu'il était le chef. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort, et quelle mort? La mort de la croix. Vous savez cela, n'est-ce pas? Mais c'est pas de le savoir intellectuellement, mais c'est que ça se fixe dans notre sensibilité, c'est que nous réalisions, mais c'est vrai, voilà ce qu'il avait. Alors quand il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, ça veut dire, j'accepte d'être abaissé comme le Christ a été abaissé. Lui qui était de condition divine, il a vécu au milieu des hommes, j'ai souvent parlé des 7 degrés de l'abaissement du Christ, et nous avons à le suivre. Mais j'aime bien que vous vous arrêtiez, que vous méditiez sur cela. Ça vous permettra d'accepter bien d'autres choses. Alors, verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Mais évidemment, je vous ai mis que dans les questions, je suppose que je les ai. Non.
c'était dimanche matin. Sur quoi l'apôtre a peut-on verset la question 3. Peut-on dire que les mœurs auxquelles Paul était habitué relativisent ses conclusions au sujet de la prière, de la femme, du voile et des cheveux coupés? Eh bien, on peut dire aussi cela. Si vous êtes en Chine, le père de ma femme était missionnaire pendant 40 ans en Chine. Eh bien, il y avait des mœurs qui étaient un peu différentes que celles que nous avons ici. Et pour pouvoir évangéliser les Chinois, mon beau-père a pris ces coutumes-là pour être proche d'eux. Il s'est même laissé pousser, ma femme me corrigera si c'est faux, une natte, n'est-ce pas? Parce que c'était en ce temps-là ce que les Chinois portaient. Et pour pouvoir être au milieu des Chinois comme un Chinois, pour leur apporter l'évangile, c'est là ce que Paul dit, qui s'était fait tout à tous, n'est-ce pas? Mais le motif, la motivation, c'était pas suivre simplement une mode, c'était arriver à évangéliser. Alors, souvenez-vous bien de cela. Maintenant, chez les Juifs, eh bien, l'homme, quand il prie, qu'est-ce qu'il doit avoir? La tête couverte. Alors, je n'entrerai pas dans une synagogue si je dois y entrer sans avoir mis mon petit capet, que j'enlève après, hein, parce que je ne suis pas juif. Bon, alors, vous comprenez dans quel sens on peut parler d'une relativisation. Mais l'enseignement quand même est beaucoup plus profond que cela. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Son chef, c'est notre Seigneur. Hein? Puis alors là, tête et chef, c'est le même mot en grec. Alors il y a aussi un jeu de mots. Je dirais encore, avant d'aller plus loin, en revenant sur les derniers versets du chapitre 10, faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à faire cela? Est-ce que vous avez vraiment compris hier soir que tout ce que nous faisons, soit en mangeant, soit en buvant, soit dans nos habillements, est-ce que nous faisons tout pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est ça qui va nous pénétrer? Je ne ferai rien sans penser à la gloire de Dieu. Je ne dirai rien sans penser à la gloire de Dieu. Est-ce que cela glorifie le Seigneur? C'est cela qui doit me conduire en toute chose. Alors, tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Alors, on se dit, mais pourquoi Paul, ou plutôt le Saint-Esprit, s'occupe-t-il de questions qui, en apparence, sont minimes, telles que le fait pour la femme de porter une longue chevelure ou de ne pas prier sans avoir la tête couverte? Pourquoi est-ce qu'il vient avec cela? Bien, je voudrais que vous vous souveniez d'abord que le christianisme ne consiste pas en quelques actions remarquables accomplies de temps à autre, mais qu'il est fait d'un ensemble de détails qui tissent notre vie quotidienne. C'est des petits détails qui manifestent ce que nous sommes. Et d'autre part, je dirais que Dieu est souverain et n'est pas tenu de nous donner la raison de tout ce qu'il demande de nous dans sa parole. Et voyez-vous, obéir sans discuter, c'est la seule vraie obéissance. Aussi,
je pense que ces instructions sont une sorte de test pour chaque jeune fille et pour chaque femme chrétienne. C'est comme si le Seigneur vous demandait, feras-tu cela pour moi? C'est à vous de pouvoir répondre. Si c'est le Seigneur, mais vous devez avoir affaire avec le Seigneur, est-ce que le Seigneur vous demande quelque chose? Et si c'est le Seigneur, est-ce que vous allez discuter avec lui, Seigneur, ou lui-même? Pas ça, tu te trompes. Le Seigneur vous dit, est-ce que tu es prêt à faire cela pour moi? Auras-tu à cœur de montrer, par un signe peut-être extérieur, ta dépendance et ta soumission, ou bien feras-tu passer d'abord les exigences de la mode et de la commodité? Ça, c'est pas à moi à vous répondre. Et puis, je voudrais que vous vous souveniez, dans tout ce contexte, qu'on a un avertissement solennel. Le monde invisible, les anges, observent de quelle manière les croyants répondent à la pensée de Dieu. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Dans notre monde occidental, eh bien, c'est ce qui arrive. Les cheveux, pour l'homme, c'est une couronne. Pour la femme, c'est un voile. Alors, je ne sais pas, mais ce qui se passe pour vous, quand je prie, et que j'ai mon chapeau, j'enlève. C'est presque automatique. Si je suis en prière devant Dieu, je me découvre. Si je parle à quelqu'un d'important, est-ce que je laisse mon chapeau? Non, je l'enlève. C'est un geste peut-être presque machinal. Mais c'est inné. Alors, c'est par déférence. Alors, dans l'assemblée, dans l'église, quand vous verriez quelqu'un qui va prier puis qui enfonce encore son chapeau, qu'est-ce que vous penseriez? Hein? Vous pensez qu'il doit quand même se découvrir. Mais toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, donc ici, il est question que la femme prie, et c'est dans un culte, ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Vous pouvez discuter à l'infini là-dessus, ça ne changera rien à la chose. Il faut que vous ayez une conviction. Moi, je ne vais pas vous mettre sous la loi ou sous une loi. Car si une femme n'est pas voilée, ben qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, alors là, il faut se souvenir, qu'est-ce qui avait les cheveux coupés? Les prostituées. Et ça, je l'ai vu en France. Les femmes qui avaient couché avec les Allemands, on les rasait. Il y en a d'autres qui étaient fusillées, mais il y en a, on les rasait. J'ai vu pendant longtemps des femmes qui avaient vraiment le voile. Pourquoi? Pour cacher leurs cheveux rasés, parce qu'elles avaient eu des relations avec l'occupant. Et dans ce temps-là, eh bien, les femmes rasées, c'était les prostituées ou les esclaves. Et alors, évidemment, une fois chrétienne, les femmes chrétiennes se disaient, mais nous sommes libres, mais on peut faire ce que l'on veut. Attention, hein. Toutes choses sont permises, mais toutes ne sont pas utiles, toutes ne sont pas profitables. Il est question d'avoir un témoignage. Alors, c'est pas pour singer certaines sœurs que vous avez à faire ça. Il faut que vous ayez une conviction, il faut que le Seigneur vous parle, pas moi.
l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Mais notez bien, c'est un homme croyant et qui vit selon Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme.
Est-ce que c'est vrai?
Il n'est pas dit qu'elle est l'idole de l'homme. Elle est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, vous le savez, c'est la Genèse, mais la femme a été tirée de l'homme. C'est l'argument de Paul. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, alors ça vous déplaît, hein. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Est-ce que vous l'acceptez? Si vous acceptez la parole de Dieu, si vous la rejetez, vous pouvez la rejeter.
Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui correspond.
Mais c'est une égale, mais elle a été créée pour l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, parce que ça, on l'a trop oublié, je pourrais vous faire toute une étude sur le ministère des anges, et cela, vous l'avez compris, les anges nous observent. À cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Les anges sont soumis à Dieu. Ils sont des esprits administrateurs employés auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Et il y a une hiérarchie que Dieu a faite, qui ne met pas la femme en dessous de l'homme, mais Dieu est un Dieu d'ordre. Et alors, il est le chef de Christ, le Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme. Quand c'est selon Dieu, quand c'est dans l'esprit de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, il y a la révolution. On veut tout renverser et on est en pleine destruction de la vie familiale. La vie familiale n'existera bientôt plus. Et les gouvernements travaillent même à cela. Et c'est ça qui est grave. Alors si vous voulez suivre ces modes, vous pouvez le faire. Mais souvenez-vous que c'est l'esprit qui prépare la venue de l'Antichrist. Et il y aura un nouvel ordre de choses. Si vous voulez y être, vous y serez si vous refusez le Seigneur. Mais j'espère bien que tous ici, vous serez ravis avant, dans la gloire du Seigneur, avant que ne vienne cette autorité diabolique. Alors, est-ce que c'est si pénible que cela d'avoir un signe de l'autorité dont on dépend? Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Ils sont ensemble, ils sont unis. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe maintenant par la femme. Eh bien, c'est quelque chose de merveilleux, hein. La femme a été tirée de l'homme, puis maintenant, s'il y a un homme, c'est à cause de la femme. Alors, c'est ex aequo. On ne peut pas se passer l'un de l'autre, mais on peut s'aimer. Et tout vient du diable. C'est ça votre tradition? Dans tout ce qui a été dit, tout vient de Dieu. Alors prenez-le de Dieu, prenez-le non pas de moi, tout vient de Dieu, mais que cette parole vous pénètre. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Alors c'est pas à moi à vous juger, hein, puisqu'il est dit jugez-en vous-même. Il faut que vous arriviez à avoir des convictions, non pas parce qu'on vous impose quelque chose, mais parce que vous aurez prié là-dessus. Et puis que Dieu vous aura donné une conviction. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Mais maintenant, hein, enfin, c'est un peu passé cette mode. Mais avant, vous aviez ces garçons qui avaient des longs cheveux. Est-ce que vous pensez que c'était bien ça? Encore s'ils se lavaient. Et encore s'ils étaient des Nazaréens, parce qu'il y avait des Nazaréens qui gardaient des longs cheveux, mais parce qu'ils avaient une vocation spéciale. Mais vous voyez, tout est dans la vocation. Il faut avoir des convictions, il faut savoir pourquoi on a des longs cheveux. Mais sans ça, si c'est simplement la mode, ben vous voyez que la mode a passé. Alors maintenant, c'est unisexe. C'est mon coiffeur qui m'a raconté ça. Il y a la coupe unisexe. Bon, ben, c'est peut-être très commode. Bon, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais je vous demande, est-ce que vous êtes vraiment dans la pensée du Seigneur? Mais c'est une gloire pour la femme d'en porter. Ben, attention aussi, il y a des prostituées qui portent des longs cheveux, hein, jusque-là. Parce qu'elles ont trouvé que c'était bien, c'est beau. Puis les hommes, habituellement, ils aiment quand même bien ça. Alors, si c'est pour plaire à des hommes que vous avez des longs cheveux, autant vous les couper, si c'est ça. Mais vous devez avoir une relation personnelle avec le Seigneur et ne pas suivre simplement les modes, elles passent. Vous avez un témoignage avec un Dieu qui vous reste fidèle. Et vous connaissez maintenant ses pensées. Il n'y a pas besoin que vous ayez des textes toujours là pour que vous puissiez connaître la pensée de Dieu. Il y a des choses que vous sentez, que vous savez. La chevelure a été donnée à la femme comme voile. Alors, si quelqu'un se plaît à contester, eh bien nous n'avons pas cette habitude dans les églises de Dieu. C'était cela que Paul disait. En donnant cet avertissement, je ne vous loue pas. Maintenant, alors, il passe de ce passage-là, sur lequel on reviendra peut-être dans le chapitre 14, mais il passe maintenant à un autre sujet. C'est versets 17 à 34. Il souligne certains abus relatifs aux agapés et à la table du Seigneur, au repas du Seigneur. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Est-ce que c'est cela notre expérience? Quand vous allez dans vos réunions, est-ce que vous en sortez meilleur ou pire? C'est quand on entend quelquefois des conversations, sans qu'on nous voie, non pas parce qu'on fait de l'espion, mais des sœurs qui sortent, puis des frères aussi, mais des sœurs qui sortent d'un culte, puis qui discutent, non pas du pasteur ni du sermon, mais de la toilette de la voisine ou de son dernier chapeau. Si elle avait mis un voile, on ne parlerait pas du chapeau. On ne parlerait pas de ça. Oui. Mais ça, je le crois. Oui. Ce n'est pas du tout l'histoire des cheveux longs qui doit empêcher d'avoir le voile. C'est un voile pour elle, mais ce n'est pas le voile dont parle Paul. Et ça, les théologiens les plus férus sont tous d'accord, on ne peut pas dire que les cheveux remplacent le voile. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est une combine, hein, pour une concession que l'on fait pour faire plaisir à certaines sœurs. Le voile, c'est le voile. Alors, vous le mettez ou vous ne le mettez pas, c'est à vous de régler la question. Mais quand j'entends une femme qui est venue me trouver en pleurant et en me disant que son pasteur lui avait interdit de porter le voile, alors qu'elle, elle était convaincue qu'elle devait porter le voile, elle pleurait. J'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on vous interdit cela? C'est biblique. Elle dit, oui, mais parce que le pasteur dit que ça juge les autres. Alors, là, c'est de l'intolérance. Hein? Alors, on interdit à une sœur qui a la conviction qu'elle doit mettre un voile, on lui interdit de le porter. Nous aurons, nous les serviteurs de Dieu, à répondre à bien des choses, parce que nous avons fait des victimes qui ne sont pas toujours responsables. Et d'abord, j'apprends que vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, ça c'est ce qu'on a déjà vu. Et je crois en partie, car il faut qu'il y ait des sectes ou des divisions parmi vous pour que ceux qui soient approuvés soient reconnus. Ça ne veut pas dire que Paul veut justifier les sectes, mais il dit, étant donné qu'il y a des divisions, on voit ceux qui sont dans la vérité de ceux qui sont dans l'erreur. Puisque, hélas, il y a ces divisions. Donc, verset 20, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre pas, et l'un a faim, tandis que l'autre est libre. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'Église primitive, au début, eh bien, la Sainte Cène se prenait dans un repas. C'était une agape, comme vous le voyez dans le chapitre 2 des Actes. On se réunissait dans les maisons, il n'y avait pas encore des grandes salles, des églises, et dans le courant du repas, on célébrait l'Eucharistie, c'est-à-dire la Sainte-Cène, le repas du Seigneur. Il avait dit, faites ceci en mémoire de moi. Mais ensuite, donc, les assemblées ont grandi, il y a eu des maisons qui pouvaient recevoir davantage de personnes, et on se réunissait toujours pour le repas. C'était plus facile, les gens avaient fini de travailler, et on faisait un repas en commun, mais chacun apportait sa nourriture. Mais il y avait des riches qui avaient des repas plantureux, enfin. C'était pas simplement le pique-nique sorti des sacs, comme on vous le dit quelquefois, mais ils avaient beaucoup, et puis d'autres qui étaient pauvres n'avaient, pour ainsi dire, rien. Alors les uns mangeaient bien, plus qu'ils n'en avaient besoin, et les autres avaient faim. Alors, cela faisait vraiment du trouble, il n'y avait pas l'unité, et c'est pourquoi les apôtres, très vite, on a séparé la scène d'un repas fraternel. On a séparé la scène de l'agape. C'est pourquoi Paul dit, mangez d'abord dans vos maisons, et puis après venez pour le culte. Mais qu'on ne mange plus dans un culte. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une agape, comprenez-vous. Mais ce que l'on a fait souvent, c'est qu'on fait un repas en commun et tout le monde mange la même nourriture. Tandis que sans ça, si chacun a son pique-nique, il y en a qui ont plus et il y en a qui ont moins. Alors, c'est cela l'ordre qui a été donné. Parce que cela faisait des troubles. Verset 23. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Quand l'apôtre Paul, maintenant, nous déclare ce qui concerne le repas du Seigneur, il ne l'a pas reçu de ceux qui avaient été à ce repas la nuit où Jésus fut livré. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Mais il avait reçu son enseignement, non pas comme le pensent certains de Pierre, de Jacques ou de Jean, mais il l'avait reçu directement du Seigneur, comme s'il y avait été. C'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et vous connaissez tout ce chapitre. Je ne m'en vais pas tellement le commenter, mais ce que le Seigneur avait voulu, c'est que pendant le temps de son absence, on puisse se souvenir qu'il avait passé sur la terre. Et il prend le pain, quel pain? Le pain qui était sur la table, le pain du repas, c'est pas un pain spécial, sinon un pain azyme, c'est le pain de la Pâque. Il le rend et il dit, prenez ceci et mon corps qui est donné pour vous. Puis la coupe de vin, c'est le vin qui est sur la table et il y a plusieurs coupes, mais c'est une certaine coupe, la coupe de bénédiction. Il la prend et il dit, buvez-en tous, il la distribue à ses disciples en disant « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour la rémission des péchés de plusieurs. » Et Jésus faisait cela pour que ses disciples puissent manifester qu'ils étaient un seul corps, pour manifester l'unité des croyants, des sauvés. Et qu'est-ce que le diable a réussi à faire avec la Sainte Cène, avec l'Eucharistie ou la communion? Il a réussi à en faire ce qui divise la chrétienté. C'est quand même terrible, hein. Le Seigneur est mort pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Il institue le mémorial de son sacrifice. Il allait à la croix. Il allait se donner lui-même. Et puis, il exprime ce désir. J'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous, etc. Et puis voilà, qu'est-ce que nous en avons fait dans l'histoire de l'Église, on en a fait ce qui divise. Et pourquoi? Parce qu'on a voulu définir les paroles du Seigneur. Or, à la Sainte Cène, à la communion, il n'y a pas à définir, il y a à adorer. Parce que dès l'instant que vous voulez définir, eh bien, vous vous divisez. Alors, à un moment donné, eh bien, on a sorti ces grands mots, comme le dit un dominicain que je connais, c'est barbarisme qui s'appelle transsubstantiation, ou alors, comme Luther l'a dit, consubstantiation. Qu'est-ce que les gens comprennent à ça? La transsubstantiation, alors ce serait que le prêtre a le pouvoir de changer l'hostie ou le pain en chair du Seigneur, et le vin en sang. Ou alors, ce serait la même substance, tout en disant que le vin reste le vin, le pain reste le pain, et puis d'autres pensent à la présence réelle et à toute espèce de définition. Or, il n'est pas question de vouloir définir les paroles du Seigneur. Les paroles du Seigneur, Jésus l'a dit lui-même dans le chapitre 6 de Jean, les paroles que moi je vous dis sont esprit et sont vie. Il a dit, je suis la porte. Est-ce que vous dites, Jésus c'est une porte? Je suis la porte, c'est une issue par laquelle vous sortez ou par laquelle vous entrez. Il a dit, je suis le chemin. Est-ce que vous dites, Jésus c'est un chemin? C'est le macadam? Non, c'est la voie. Il a dit, je suis le bon berger. Eh bien, c'est aussi une illustration. Il est le berger qui conduit les brebis. Et puis, quand il y a d'autres expressions, il dit, je suis l'étoile du matin. Jésus, c'est une étoile? Non, n'est-ce pas? Les paroles que moi je vous dis sont esprit et sont vie. Quand il a parlé de manger sa chair et de boire son sang, est-ce que vous allez arracher la chair du Seigneur ou est-ce que le Seigneur arrachait sa chair pour la donner à manger? Il a pris le pain, puis il leur a donné le pain, puis il a dit, ceci est mon corps. Mais son corps était là, et maintenant il est ressuscité. Alors c'est spirituellement, mais il y a une réalité spirituelle. Et par-delà les éléments pain et vin, vous avez une communion réelle avec le Seigneur, comprenez-vous? C'est cela qui compte. Parce que si vous faites que manger un petit morceau, ou l'hostie, et puis boire, enfin, autrefois, c'était dans toutes les églises, on communiait sous les deux espèces. Dans bien des églises, même dans l'église romaine, maintenant, on essaye de remettre les deux espèces. Mais, littéralement, c'était les deux espèces, et pas le prêtre tout seul qui buvait le vin. C'était tous, buvez-en, tous. C'est l'Écriture qui le dit. Alors pourquoi est-ce qu'on change cela? Et puis où est-il dit que quelqu'un aurait le pouvoir de transformer ceci ou de transformer cela? Il n'est pas dit cela dans l'Écriture. Et Jésus n'a pas dit cela. Il n'a pas dit je transforme ce pain en mon corps. Il a dit ceci est mon corps. Alors moi j'adore. Il y a des choses qui me dépassent.
mais je sais que quand je prends la communion, j'ai communion réelle avec le corps du Seigneur. J'ai communion réelle avec le sang du Seigneur. Qu'est-ce que c'est le sang? Le sang, c'est la vie. Et manger, c'est aimer. Et boire, c'est croire. Et c'est cela qui compte. C'est que vous aimiez le Seigneur. Quand vous prenez ce pain, vous avez communion à ce corps. Vous êtes replacé devant l'unique sacrifice que nous rappelle la communion, la table du Seigneur, qui est l'autel. Eh bien, il est mort une fois pour toutes. Nous ne renouvelons pas le sacrifice, car il est dit qu'il est mort une fois pour toutes. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Il est mort une fois pour toutes. Mais chaque fois que nous sommes en présence de la communion, nous rendons actuelle cette mort du Seigneur. Ça devient actuel, c'est comme si c'était aujourd'hui, et cela me renouvelle entièrement, parce que je me dis, mon Seigneur est mort pour moi, et moi je ne m'habitue pas à cela. Je suis renouvelé par la communion, renouvelé intérieurement, renouvelé spirituellement, ce n'est pas un geste machinal. Et alors, il y en a qui ont tellement peur, parce qu'il est dit que si on communie indignement, n'est-ce pas, on risque de boire et de manger. On risque de boire et de manger un jugement contre soi-même. Alors on dit, le moins souvent je communie. Hein. Alors il y en a qui font, non pas une fois par semaine, mais une fois par mois, ou une fois tous les 15 jours, ou bien une fois tous les 3 mois, aux grandes fêtes solennelles, une fois par année, et voilà. Alors qu'il y a dans la communion un moyen extraordinaire pour régler toutes les questions. Quand, dans l'Église primitive, on communiait quand? Tous les jours. Alors, les difficultés entre frères ne pouvaient pas durer plus de 24 heures. Ça se réglait dans la journée. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Alors, si vous communiez tous les dimanches, vos difficultés, parce qu'on est des hommes, hein, nous avons tous à nous supporter les uns les autres, mais si j'ai manqué à votre égard et que je veux communier aujourd'hui, je dois vous demander pardon. On ne va pas laisser pourrir notre affaire. Hein. On s'est peut-être un peu fâché, on a eu des paroles que nous voulons retirer, je le reconnais, mais je ne dis pas, oh ben, parce que ça ne va pas avec ce frère, je ne viens pas à la communion. Ce n'est pas le moyen. Le Seigneur est mort pour des pécheurs, le Seigneur est mort pour nos péchés en parole, en pensée et aussi en acte. Nous devons nous juger nous-mêmes. C'est pourquoi la communion était précédée d'une confession des péchés. Mais maintenant, on a tous abordé. Mais la confession, c'était quelque chose de réel et on reconnaissait son péché. On se réconciliait avec son frère avant d'aller offrir notre offrande, avant de porter notre offrande. Il y avait comme cela une unité qui pouvait être maintenue. Alors je vous le demande, le Seigneur est digne que vous répondiez au désir de son cœur. Et lui est le président à sa table, c'est lui qui reçoit, c'est lui qui nous donne de sa main percée ce pain et ce vin par-delà lesquels nous avons communion réelle au corps et au sang du Seigneur. Il a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là. Donc il y a une présence réelle, non pas parce que le pain est transformé par un pouvoir magique en chair ou en sang du Seigneur. Comprenez bien cela. Et qu'il se passe quelque chose à la Sainte Cène, j'en suis absolument convaincu. En bien ou en jugement. On ne fait pas cela légèrement. Mais il ne faut pas que vous soyez retenu quand c'est le Seigneur qui vous invite. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Il dit, venez, car déjà tout est prêt. Mais maintenant, eh bien, c'est justement sur cette question de communion que les églises sont divisées.
et on n'accepte pas l'intercommunion, alors je suis obligé de dire que selon le rite romain, quelqu'un qui tient absolument à ce rite, eh bien, nous ne le repoussons pas s'il est vraiment au Seigneur, mais selon son Église, il n'a pas le droit de communier à une table où ne préside pas un prêtre. Pour quelle raison? Parce que, selon eux, il faut que ce prêtre ait reçu l'ordination des mains d'un évêque. Alors, il faut être droit. Alors, je vous le dis. Mais si vraiment on est au Seigneur, eh bien, ce n'est pas nous qui vous empêchons de prendre la communion. Ce n'est pas notre table, ce n'est pas notre communion, c'est le pain et le vin que le Seigneur a institué et chacun a sa place à cette table. Comme je le disais hier soir, la table du Seigneur, elle est vraiment dans le ciel et la table que nous avons sur la terre n'en est qu'une expression. Mais vous vous mettez alors en conflit avec votre Église. Et je sais très bien que moi, si j'allais dans une église romaine, il y a des prêtres, mais c'est simplement parce qu'ils m'aiment bien, parce qu'ils trouvent que j'ai un certain travail, un certain ministère, qui me l'offriraient. Mais nous avons dit, et nous avons maintenu cela, que nous préférons nous abstenir, parce que cela crée chez des gens qui ont reçu du bien les messages de la parole, ils disent, puis on ne vous donne pas la communion, c'est interdit. Alors les gens, j'ai vu des gens qui se mettent à pleurer, qui disent, mais c'est pas possible, mais c'est pas la vérité ça. J'ai vu une personne qui est allée trouver un monseigneur, puis qui a dit, si le Seigneur avait été au milieu de nous, est-ce qu'il lui aurait donné la scène? Est-ce qu'il lui aurait donné la communion? Puis le monseigneur a dit, mais bien sûr. Alors, toute la question est là. Et j'ai vu que de s'abstenir ainsi faisait plus de progrès que simplement on saute par-dessus tout. Hein. Peu importe ce que vous croyez, tout le monde, c'est du partage du pain et du vin. Ça, c'est de la camaraderie. Comprenez-vous? Nous voulons être sérieux. Nous souffrons des divisions et nous nous humilions de ce que nous avons fait, parce que c'est le Seigneur qui en souffre. Alors, que le Seigneur vous travaille et vous pénètre, mais que vous sachiez que ce n'est pas quelque chose de léger que nous allons faire cet après-midi. Verset 33. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns aux autres, si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous, je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Vous voyez qu'il y avait beaucoup de choses à régler. Mais verset 31, il fallait se juger soi-même. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Le Seigneur permet certains châtiments. Alors, chapitre 12, les dons spirituels. Là, je pense que vous êtes bien au courant. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Mais il y a tellement de gens qui sont dans l'ignorance. Il y a des dons de l'esprit. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner par des idoles muettes. Et c'est vrai, une idole, est-ce qu'elle peut parler? Non. Elles ont une bouche qui ne parle pas. Elles ont des yeux qui ne voient pas. Des oreilles qui n'entendent pas. C'est le psaume 115. Et ceux qui les ont faites sont toutes comme elles. Tu ne te feras pas d'image taillée, l'Écriture le disait. Et pourtant, on a fait cela. Mais ne pensez pas qu'il n'y a que l'Église romaine qui a fait cela. Quand vous employez le flanellographe, le storiographe, etc., vous employez des images. Vous faites exactement la même chose. Alors, ne criez pas sur les autres. Et puis, aussi, ne nous jugeons pas les uns les autres. Les vitraux des cathédrales, c'était le moyen de faire connaître l'Évangile. parce que les gens ne savaient pas lire. Alors, il y a eu des artistes qui ont peint toutes ces scènes bibliques, et ça a été pour le peuple l'occasion de connaître la parole. Vous ne pouvez pas faire une croix sur tout cela. Il n'y avait pas l'imprimerie, on n'avait pas la Bible dans tous les foyers, ça ne se trouvait que dans les monastères. C'est comme Luther, par exemple, ben, qu'est-ce qu'il était? Il était un moine catholique, et puis il a lu l'écriture parce qu'il l'avait dans son couvent, et il s'est aperçu évidemment, dans l'Église, on avait dévié. C'était le temps où Jules II et d'autres avaient besoin d'argent, alors soit pour finir Saint-Pierre, soit aussi pour financer les croisades, ce qui ne sont pas la gloire de l'Église, hein, d'aller massacrer les musulmans, ils nous le reprochent encore. Hein. Mais il fallait de l'argent pour financer les croisades, et alors qu'est-ce qu'on a trouvé? Les indulgences. Les indulgences. Et alors, c'était une abomination. Et beaucoup de vrais catholiques qui aimaient le Seigneur ont protesté auprès du pape pour que ce trafic cesse. On venait sur les foires et les marchés et puis on vendait des indulgences. Et ça marchera toujours. Hein. Si tu peux te racheter avec un peu d'argent sur tes péchés, puis que tu continues de pécher, ben tu payes. Mais alors les pauvres, hein? Alors, c'était la négation de l'Écriture. Alors, ces hommes ont protesté, ils n'ont pas voulu sortir de l'Église. Ils ont demandé une réforme de l'Église. Comme il y a eu Vatican II, maintenant, enfin, qui était aussi un essai de retour à l'Écriture. Mais maintenant, on s'en éloigne de plus en plus. Il y a eu des portes ouvertes remarquables par Vatican II, mais maintenant, de nouveau, on se resserre, chacun va de nouveau de son côté, et on retombe dans ces traditions passées et qui ne sont pas bibliques. Alors, vous voyez, vous n'avez pas besoin que je dise grand-chose sur ce chapitre 12. Voilà, avant, on était conduits vers des idoles muettes. Mais c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et ou « Jésus est maudit » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Mais attention, hein, vous pouvez dire « Seigneur, Seigneur » et pas avoir le Saint-Esprit. Mais quand on dit « Jésus est le Seigneur », qu'est-ce que ça veut dire? Je confesse qu'il est mon Seigneur, qu'il est mon Sauveur et qu'il est mon Maître, et que c'est à lui que j'obéis. Ben, si vous dites cela, c'est par le Saint-Esprit. Et je n'ai pas le droit de juger qui que ce soit. Si vous me dites que Jésus est le Seigneur et que votre vie le prouve, eh bien, c'est l'action du Saint-Esprit. Mais alors, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Vous voyez que c'est le Dieu trinitaire. Hein? Les trois noms sont donnés là. Le même Esprit, le même Seigneur. Donc, les dons dépendent du Saint-Esprit. Les ministères dépendent de qui? Du Seigneur. C'est le Seigneur qui envoie, qui donne un ministère. Si j'ai reçu un ministère, c'est du Seigneur que je l'ai reçu. Ce n'est pas des hommes. Et puis, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu. Dieu peut opérer toutes choses. Et puis, il opère tout en tous. C'est lui qui choisit. On l'a vu. Et puis, il peut choisir les gens les plus pauvres pour en faire des témoins de sa gloire. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue de l'utilité commune. Parce que c'est toujours cela, vous devez bien souligner ce verset. Dieu ne nous donne pas des dons pour qu'on puisse en faire des décorations. On n'a pas des dons comme décoration. On a des dons pour être utile aux autres. Et vous avez le droit de demander au Seigneur qu'il vous qualifie pour pouvoir être utile aux autres et avoir une vie vraiment dans l'Église. En effet, à l'un est donné par l'Esprit, et vous avez les neuf dons. le don de sagesse. Je ne vais pas vous dire tout ce que ça peut être, mais on le voit chez Joseph en particulier, on le voit chez Daniel. Une parole de connaissance, selon le même esprit, on voit cette parole de connaissance chez Élisée, hein, qui dira à Géasi, quand tu es parti courir derrière Naaman pour avoir une récompense, je t'ai vu, n'est-ce pas? Il a le don de connaissance, il sait ce qui se passe. Et un autre, la foi, c'est pas la foi qui sauve ici, c'est ce don de la foi qui a permis à certaines personnes qui avaient reçu ce don de créer des œuvres que vous ne pouvez pas faire, que vous ne pouvez pas imiter. Telle personne a reçu, comme je pense à George Muller en Angleterre, quand il a eu cette vision de fonder des orphelinats, eh bien, il avait le don de la foi. Si vous voulez, Don Bosco, lui aussi, il a eu ce don-là pour les orphelinats qui portent encore leur nom et dont j'en connais plusieurs. Il y a des œuvres au travers de toute l'histoire de l'Église, il y a eu des hommes de foi. Et moi, je me sens rattaché à tous les croyants, depuis l'Église primitive, au travers des âges et des temps même les plus sombres du Moyen-Âge, il y a toujours eu un résidu fidèle. Il y a toujours eu des hommes de Dieu, mais dans le milieu où ils étaient, ils souffraient. Je n'ai jamais trouvé un homme de Dieu au travers de toute l'histoire de l'Église qui n'ait pas souffert. Ils ont tous souffert, ils ont tous plus ou moins été incompris, critiqués. On les a peut-être canonisés après, hein. Mais quand ils étaient sur la terre, on les a mis en prison. Regardez Jean de la Croix, eh bien, en son temps, il a été dans les prisons de Tolède. Puis après, ben, on l'a nommé docteur de l'Église. Mais ça n'a pas empêché qu'il a souffert. Un autre la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison. Ça, si vraiment il y a le don de guérison, les guérisons qui sont opérées sont réelles. C'est pas comme quelqu'un qui me disait, je dis, pourquoi tu imposes les mains là aux malades dans tes réunions? Ben, il me dit, il faut bien s'essayer. Alors, vous comprenez, vous laissez un espoir. Vous dites, les gens, la foule ne fait pas des cobayes. Ou bien vous l'avez, et puis le Seigneur vous le dit, ce que j'ai, je te le donne. Prends ton lit et marche, ou bien lève-toi et marche, et saute sur tes pieds. Voilà les vraies guérisons. Ah, mais maintenant on dit, eh bien maintenant je vois dans l'auditoire, il y a une dame qui a un cancer. Dans tout auditoire, il y a une dame qui croit avoir un cancer. Vous pouvez être absolument sûr, il y en a peut-être ici. Alors, on dit, vous allez sentir une chaleur. Chaleur. C'est facile de suggestionner les gens. Alors, oui. Alors, est-ce que quelqu'un a senti cette chaleur? Alors, la personne se lève, puis on la fait rendre témoignage. C'est de la manipulation. Et ça démolit les dons spirituels. Nous y croyons à tous ces dons spirituels, aussi aux dons de guérison. Mais nous les voulons réels. Et nous voulons que ce soit des dons de l'esprit et non pas l'illusion. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. La prophétie, c'est pas simplement annoncer l'avenir, mais c'est donner une parole dans l'Église, dans l'Assemblée, dans la communauté, une parole qui rejoint les cœurs des personnes, qui dit, mais ça, il a dit cela pour moi. Ça, c'est pour moi. C'est juste la parole dont j'ai besoin. Le prophète, il est la bouche de Dieu. Il ne dit pas ce qu'il y a dans son propre cœur. Il est simplement le canal de Dieu. Pas simplement pour annoncer l'avenir. Ça peut être possible aussi. Mais pour donner, dans le présent, une parole qui est une consolation pour un cœur qui est affligé, une parole qui est une exhortation pour quelqu'un qui va peut-être dévier, et une autre parole qui est consolation, exhortation ou édification, qui vous bâtit, qui vous construit, et non pas qui vous démolit.
à un autre le discernement des esprits. Et vous savez, on aurait bien besoin de demander à Dieu qu'il nous donne le don du discernement des esprits. C'est un don spirituel qui vous fait dire, mais ça, c'est pas de Dieu. On dit que c'est un esprit, l'esprit de Dieu, mais c'est pas l'esprit de Dieu qui dit ça. Parce que tout le monde parle au nom du Seigneur, soi-disant. Mais il faut savoir discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Le discernement spirituel. Et puis, la diversité des langues, ces mots étranges comme l'a traduit là. Mais là encore, je peux croire au don des langues, je nie pas le don des langues, quoiqu'il est dit que les langues passeront aussi, mais je crois que les dons sont pour tout le temps de l'Église. Mais encore faut-il que ce soit des vrais dons. Et le don des langues, qu'est-ce qu'il donne? Il nous édifie nous-mêmes. C'est donc dans le privé qu'on devrait l'employer. Exceptionnellement dans l'Église, s'il y a un interprète. C'est clair, alors tout est remis dans les vraies lignes. Mais dire que la preuve qu'on a le Saint-Esprit ne se trouve que si vous avez le don des langues, est-ce que c'est juste? C'est faux. C'est construire sur le fondement avec de la paille. Et alors, dès que vous avez des gens qui veulent vous parler, soi-disant, ils sont peut-être au Seigneur, mais quand ils viennent tout de suite avec le don des langues, c'est fini. On ne peut plus discuter. Ou bien, alors, avec le sabbat, je crois qu'ils sont au Seigneur, mais s'ils veulent mettre tout de suite le sabbat en avant, c'est une doctrine sectaire et on ne peut plus discuter. Occupez-vous du Seigneur. Parlez du Seigneur, remplissez les cœurs du Seigneur et pas d'une doctrine particulière, même si cette doctrine est une doctrine biblique. Nous n'avons pas apporté des doctrines aux gens, mais nous avons apporté une personne. Et dans la personne, vous avez tous les dons. Parlez du donateur, et dans le donateur, il y a tous les dons, et il vous donnera les dons qui sont nécessaires, non pas pour que vous, vous puissiez vous glorifier, mais en vue de l'édification de l'Église. Alors, tenez-vous à ces textes, et vous ne dévirez pas. Mais comprenez que les dons sont différents. Mais ce sont tous des dons surnaturels. Attention, les dons du Saint-Esprit, ce n'est pas des dons naturels sublimés. C'est faux. Il n'y a pas de sublimation dans le christianisme. Il y a une crucifixion. Nous sommes crucifiés et toute notre vie passée, elle est crucifiée. Je peux avoir des dons naturels, mais tout cela, ce n'est pas avec les dons naturels que je m'en vais servir le Seigneur. C'est avec des dons surnaturels. Ce que le Seigneur me donne. De sorte que toute gloire revient au Seigneur. Et ce n'est pas charnel. Car comme le corps est un, verset 12, et il y a plusieurs membres, alors vous avez cette belle image du corps de Christ où tous les membres n'ont pas la même fonction. Mais je cite encore ce verset 12, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Ça, c'est un verset merveilleux. Le Christ, ce n'est plus seulement la tête, hein, c'est la tête et le corps. Le Christ total, c'est tête et corps. Et quand il reviendra, le Christ sera vu dans son unité glorieuse, la tête et son corps, parvenu à la perfection. De sorte que avant qu'il ne revienne, il doit prendre d'abord à lui les siens. Et dans cette perfection absolue dans laquelle il aura rendu les siens, car quand nous le verrons, nous lui serons semblable, alors il sera admiré dans les siens et glorifié en tous ceux qui auront cru quand il viendra. Ça, c'est d'autres textes. Et verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Cela a eu lieu historiquement à la Pentecôte. Ces disciples qui étaient divisés avant, ces disciples qui étaient des unités séparées, ils ont été unis dans le baptême du Saint-Esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Tous ont été abreuvés d'un seul esprit. Nous sommes unis par ce baptême de l'Esprit. La promesse est pour vous et pour vos enfants, a pu dire l'apôtre Pierre quand il a annoncé la parole. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et alors, nous avons tous besoin les uns des autres, c'est ce que vous avez dans tout ce chapitre. Et ce qui ressort d'une façon extrêmement belle, c'est que si un membre souffre, comme dans le corps humain, tous les autres souffrent. Si un membre est glorifié, tous les autres le jalousent. C'est ça ? Tous les autres se réjouissent. Que s'il y ait une bénédiction, qu'est-ce que ça devrait me faire à moi ? Je me réjouis parce que tu m'appartiens. Tout est à vous, Paul, Pierre. Hein? Alors, il y a une communion vraiment merveilleuse. Alors, ça bannit la jalousie. Nous nous réjouissons du bien que Dieu fait aux autres. Et nous dit le nom de gloire. Mais si quelqu'un souffre, c'est ma souffrance. Alors, je porte avec toi ton fardeau. Je me sens proche de toi. Tu souffres, tu me le dis. Je porte avec toi le fardeau. Alors, nous ne sommes plus solitaire. C'est cela la réalité du corps du Christ. Mais aspirer aux dons les meilleurs. Puis alors vous avez le merveilleux chapitre 13, qui est un des sommets de l'écriture du Nouveau Testament, parce qu'il nous montre la voie par excellence. Au lieu de vouloir tel don, eh bien, demandons au Seigneur qu'il nous remplisse de son amour. Parce que si même vous parliez la langue des hommes et des anges, si vous n'aviez pas l'amour, vous seriez que de l'airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et il y a bien des églises qui deviennent comme cela. Hein. C'est du bruit. C'est presque... Il y a des églises qui deviennent des discothèques. Je m'excuse. C'est beaucoup de bruit. Et on ne sent plus cette sainteté de Dieu. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Quand je distribuerai tous les biens pour la nourriture des pauvres, mais c'est beau ça, mais quand je livrerai mon corps même pour être brûlé, on peut être martyr, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Et puis vous savez qu'il y a des gens qui peuvent se donner leur corps au feu. Mais qu'est-ce que ça a donné ? Ces sacrifices par le feu. Il n'y avait pas besoin d'être chrétien pour faire ça. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Alors, vous avez noté ce que l'amour est, ce que l'amour fait, et ce que l'amour ne fait pas. Vous avez vu que quand on était enfant, on parlait comme un enfant, on pensait comme un enfant, on raisonnait comme un enfant, verset 11. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. Ça veut dire qu'il y a une croissance spirituelle. Alors, aujourd'hui, nous voyons encore au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. C'est ça notre espérance, et c'est pour bientôt. Et en attendant, eh bien, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Un jour, il n'y aura plus d'espérance, puisqu'on aura la possession. Un jour, il n'y aura plus besoin de la foi, puisqu'on aura la vue. Mais qu'est-ce qui restera ? L'amour. Et nous serons examinés sur l'amour, alors cultivons l'amour. Ça, je n'ai pas besoin d'insister, vous l'avez compris, mais vous allez relire tout cela. Alors, recherchez l'amour. Aspirez aux dons, mais surtout à celui de la prophétie, qui est donc avoir une parole qui peut édifier dans le temps présent l'Église, qui peut consoler les âmes qui s'y rassemblent, qui peut les exhorter à une vie de plus en plus personnelle avec le Seigneur et qui peut les instruire. Parce que celui qui parle en langue, donc c'est pas condamné, mais s'il a ce don-là, eh bien, il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, c'est une prière personnelle. Car personne ne le comprend, si c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais celui qui prophétise, il parle à qui ? À l'Église. Et ce que nous avons besoin, surtout, eh bien, c'est des hommes qui apportent un message vraiment de Dieu à l'Église. Et je passe sur tout cela parce que l'heure est avancée. Vous connaissez clairement ce qui est dit et nous n'avons pas à être des enfants et je ne vous prends pas pour des enfants. Et ce qui devrait être manifesté depuis le verset 23 dans nos églises, dans nos communautés, si vraiment il y avait ce don de prophétie que quelqu'un entre puis il vient, et vous savez ça est arrivé ça, il entre dans une salle, il entend une parole puis il dit mais c'est pour moi et il est conscient que Dieu est au milieu des croyants. Il est jugé par tous et il se convertit sur l'heure. Pas parce qu'on a fait un appel et pas parce que c'était une réunion d'évangélisation, dite d'évangélisation. Mais il est saisi par la présence de Dieu au milieu des saints et quand il écoute, il dit mais c'est pas pour eux qu'ils disent ça, c'est pour moi. C'est ma vie qui est révélée. Et il confesse que le Seigneur est au milieu de nous. Et alors, ça encourage aussi tout l'auditoire de croyants, et puis cette âme peut être amenée à la connaissance du Seigneur. Et alors, la fin, verset 33, il est parlé que Dieu est un Dieu, non pas de désordre, mais de paix. Et est-ce qu'il faut que tout le monde parle ensemble, comme on l'entend si souvent? Non, chacun à leur tour. Et alors, c'est les versets qui suivent qui vous intéressent peut-être le plus. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Alors, est-ce que Paul se met en contradiction avec le chapitre 11? Non, il ne se met pas en contradiction avec le chapitre 11. Mais alors, si une femme venait à prier, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse? Qu'elle soit voilée. Parce que, évidemment, il y a un autre texte qui dit, dans Timothée, hein, que les femmes doivent se taire. Mais il faut encore comprendre ce que le mot veut dire. Si elles doivent se taire, littéralement taire, ça serait aussi ne pas chanter. Parce que quand vous chantez, vous ne vous taisez pas. Alors, je ne peux pas aller plus loin que Paul ne va, et je ne veux pas mettre Paul en contradiction, mais ce qui est clairement dit ici, c'est que la fin, avec le chapitre 11, eh bien, vous voyez qu'il est possible qu'une femme puisse prier ou même avoir une parole de prophétie, mais elles doivent rester dans la soumission. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, elles doivent interroger leur mari parce qu'il semblerait, et ça se passait comme cela, que des femmes prenaient la parole ou questionnaient et amenaient du trouble dans la communauté. C'est pourquoi je demande toujours, si vous avez des questions, vous les poserez après, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Des femmes qui voudraient se mettre vraiment en avant. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur, pas moi qui le dis. Et si quelqu'un l'ignore, ben qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, si c'est vraiment une langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Alors, souvenez-vous d'une chose. C'est qu'il y a un texte, et je l'ai mis ici dans le petit livret, c'est Galates 3, qu'on cite si souvent, versets 27 à 28, pour essayer de dire que Paul a changé d'avis quand il dit, dans ses versets 27, que dit-il ? Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus homme, ni femme, car vous êtes tous qu'un en Jésus-Christ.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a plus de sexe ? Il n'y a plus de race ? Mais les races continuent. L'homme et la femme sont différenciés. Mais dans le Christ, quant au salut, ils sont tous égaux. C'est quant au salut, comprenez-vous bien. Il ne faut pas opposer ça. Quant au salut, il n'y a plus ni homme ni femme. Quant au ministère, il y a des ministères qui sont confiés aux hommes et des ministères qui sont confiés aux femmes. Et si nous pouvions développer cela, je dirais que quand l'homme veut se mêler de faire le ministère de la femme, eh bien, il patauge. Et puis, quand la femme veut se mêler de prendre les responsabilités qui reviennent à l'homme, eh bien, ça ne va pas non plus. Comprenez-vous ? Mais si les femmes voulaient comprendre le ministère merveilleux que Dieu leur a donné, elles ne chercheraient pas à prendre la place de l'homme. Et puis, l'homme, s'il était vraiment ce qu'il doit être, eh bien, il prendrait ses responsabilités, alors que parce que l'homme ne prend pas ses responsabilités, Dieu permet que des femmes se lèvent, mais à la honte des hommes. Comprenez-vous ? C'est à la honte des hommes. Quand les hommes se taisent, eh bien, Dieu peut bien faire crier des femmes. Jésus l'a dit, et je ne voudrais pas que mes sœurs s'offensent. Si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. Je ne veux pas aller plus loin. Parce que je vous dirais que pour reprendre la folie d'un vieux prophète, Dieu a fait parler qui ? Une ânesse. Alors ne me dites pas qu'on peut comparer nos sœurs à des ânesses. Non, mais je sais que je ne veux pas vous offenser. Mais puisqu'on sait que maintenant, quand on disait muet comme une carpe, hein, c'était faux. Les carpes, elles parlent. Elles s'entretiennent sous l'eau. Mais alors, croyez-le aussi, mes sœurs, si les femmes avaient leur ministère et comprenaient la valeur de la prière silencieuse aussi, nos églises seraient transformées. Les frères seraient secourus, soutenus, et les sœurs seraient édifiées. Et elles entendraient les paroles qu'elles ont dans leur cœur sur la bouche des frères, et elles ne les jalouseraient pas. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander que tu nous permettes de sonder davantage les Écritures, et d'être des gens qui sont convaincus, non pas parce qu'un homme a dit ceci ou cela, mais parce que nous avons saisi la moelle de ces Écritures. Et nous voulons te demander que nous soyons fortifiés dans nos convictions, que nous puissions nous aimer. Et si nous avons une pensée différente sur un sujet ou sur un autre, que nous puissions continuer de marcher quand même ensemble en recherchant ta pensée. Car nous avons un seul esprit, et un seul Seigneur, et un seul Père, qui nous veut unis, homme ou femme, dans l'amour de Jésus. Que les hommes puissent aimer les femmes comme Christ les aimait, et que les femmes puissent être soumises comme le Christ, comme elles l'étaient au Christ. Et cela pour un témoignage vivant dans ce monde, jusqu'à ce que Jésus vienne.